Vous remerciez les musiciens, Dieu vous bénisse. Je vais vous faire une lecture ce matin. On va commencer dans 1 Corinthiens 14, 6. On va prendre verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Donc ce matin, je ne vais pas vous parler en langue, vous pouvez vous asseoir, pendant trois quarts d'heure, ça ne vous serait d'aucune utilité, mais je peux vous parler par révélation, je l'ai eu fait, je peux vous parler par connaissance, je peux vous parler par prophétie, et je peux vous parler par doctrine. Ces quatre possibilités sont bibliques, parce qu'il y a la doctrine de Christ, et la doctrine de Christ n'est pas en dehors de Christ. Donc ce matin, on va lire des textes pour rétablir l'Église, sachant que quand quelque chose est rétabli, c'est que quelque chose est malade et qu'elle a besoin d'un rétablissement. On va lire Éphésiens chapitre 1, 22, premièrement. Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Et il a donné Jésus pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et un autre verset dans Éphésiens 4, 15. Professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est de lui... Et grâce à tous les liens de son assistance, qu'est-ce que c'est que ces liens? C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Cet hiver, il fait chaud. Hein. Mes frères et sœurs, avant de faire de Jésus-Christ le chef de toutes choses, Dieu a fait de lui premièrement le chef de l'Église. On voit bien que, bien sûr, c'est Dieu qui tient toutes choses dans ses mains, le monde entier, etc. Mais dans le monde, on ne lui obéit pas. Donc il veut un atelier, c'est l'Église. Au commencement, il a voulu un atelier, c'était Israël. Maintenant, ça n'est pas que Israël n'est pas l'atelier de Dieu, mais ça s'est étendu à l'Église. L'Église ne remplace pas Israël. D'accord? Comme notre frère Alain disait, nous sommes liés à eux. Et puis ensuite, il remettra toute chose dans les mains de Dieu, c'est-à-dire qu'il reprendra sa place de Dieu Tout-Puissant, non pas dans la création, mais dans la nouvelle création. Alors, avoir été fait chef de l'Église, c'est une grande chose. Et Jésus-Christ va ensuite établir son autorité en tant que chef de toute chose. Sa position future, dans le monde futur, elle est étroitement liée à sa position qu'il occupe maintenant dans l'Église, dans son Église. Alors Jésus-Christ est le chef, c'est-à-dire la tête de l'Église. Je vous rappelle, il y a quelque temps, je vous ai prêché quand j'étais revenu d'Israël, disant que... La tête, on dit un chapeau, c'est un couvre-chef, hein, la tête. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et l'Église, c'est son corps. C'est des évidences que je vous dis là, vous connaissez. Tout le corps est donc dépendant de la tête. Rien dans le corps ne peut vivre sans la tête. Si notre corps humain était séparé de notre tête, ça signifierait la mort pour notre corps. J'étais étonné, j'ai vu que autrefois on ne disait pas la décapitation, on disait la décollation. Vous savez ça? On décolle la tête, la décollation. C'est bizarre, hein? On peut pas vivre si on peut vous couper un bras, vous pouvez continuer à vivre. On peut vous couper une jambe, vous pouvez continuer à vivre, mais la tête, non. Alors c'est simple à comprendre et l'image que la Bible nous donne, elle est très parlante. Tous les mouvements qu'une personne fait sont gouvernés par la tête. La tête, c'est le centre qui contrôle la vie du corps. Ce sont des évidences. Or, on va aller plus loin. La Bible affirme que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. 1 Jean 5, 12. Le disciple de Jésus reçoit la vie du Seigneur. Pourtant, cette vie ne quitte jamais le Seigneur. Cette vie que nous recevons, parce que nous nous sommes convertis, cette vie, la Bible nous dit dans 1 Jean 5, 11, qu'elle est dans le Fils. La vie de Jésus en nous n'enlève rien à Jésus. Il est omniprésent. Il nous faut comprendre que Dieu ne nous a pas donné une petite mesure de Jésus-Christ à chacun afin que nous la prenions et que nous partions avec elle pour faire ce que nous avons à faire, ou ce que nous avons envie de faire, ce que nous nous sentons poussés à faire, ou des choses comme ça. Non, Dieu nous a donné la totalité de Christ, la totalité, la plénitude de la vie de Jésus à chacun. Toute la puissance de notre vie repose en Jésus. Si nous perdons la communion, la communication avec le Seigneur, parce qu'on s'éloigne de lui, etc., etc., pour toutes sortes de raisons, eh bien nous perdons toute la vie. Nous attristons le Saint-Esprit qui se retire. Et nous ne marchons plus selon l'Esprit, mais selon la chair. Et qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, des doctrines. Ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, mais c'est que c'est notre connaissance. On marche avec une connaissance. Et c'est tout, une connaissance intellectuelle des choses. Mais ce n'est pas bon. Pourquoi toutes ces paroles ce matin? Eh bien, pour dire que la vie que nous avons reçue et la tête sont inséparables. Nous dépendons de Jésus. Par conséquent, nous ne devons être indépendants de rien ni de personne. Bien. Christ est la vie du corps, il est la vie de l'Église et il en est aussi l'autorité en tant que chef. C'est parce que la vie est en lui que l'autorité se trouve en lui. Alors pourquoi ces paroles ce matin? Pour dire que quand nous obéissons à son autorité, nous faisons preuve que nous avons la vie. Alors si nous marchons selon l'Esprit qui est un avec la parole écrite, nous discernons ce qu'est le corps de Christ. Vous suivez? Si nous marchons selon la chair, alors nous ne discernons pas ce qu'est le corps de Christ. Et nous ne pouvons pas accepter alors le contrôle de la tête. Nous pouvons nous illusionner, mais ça n'est pas la réalité. Parce qu'un corps et ses membres ne peuvent bouger selon leur propre volonté. Je connais un enfant qui a un corps qui bouge comme il veut. Je ne veux pas le nommer, c'est quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps, Michou et moi, de temps en temps, nous allons leur rendre visite. Et c'est une jeune fille avec un très beau visage, une très belle tête, mais ses bras, ses jambes, tout remue dans n'importe quel sens tout le temps. C'est un corps qui est malade. Si le corps est sain, alors il ne bouge pas si Christ ne dit pas de bouger. Mais vous avez aussi des corps qui sont paralysés. Vous avez toutes sortes de maladies. Aucun membre du corps ne peut prendre une initiative personnelle. Mais chaque membre est forcément gouverné par la tête. Souvenez-vous que je parle ici de l'Église de Jésus-Christ rétablie. Je ne parle pas de l'état de l'Église actuelle. Ça, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Mais si nous voulons rentrer dans le rétablissement de l'Église, alors nous devons passer par là. Comprendre clairement que c'est lui le seul chef de son Église. Il n'y a pas d'autre. Pourquoi ces paroles? Eh bien, pour dire que là où il y a la vie, il y a aussi autorité. Maintenant, quiconque confesse de sa bouche qu'il connaît Jésus-Christ devrait se demander s'il est soumis à l'autorité du Seigneur. Le fait qu'il soit soumis ou non à l'autorité du chef prouve qu'il connaît ou non réellement la vie, Jésus, la vie du corps, la vie de l'Église. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, son Fils, qui est la tête d'un corps. Or, mes frères et sœurs, dans le corps de Christ, il y a une maladie, c'est, je vous le disais l'autre jour, l'individualisme. Oui, alors, c'est vrai, Jésus guérissait les malades, mais aujourd'hui, je pense que... Oui, le baptême biblique doit se faire par immersion, on voit ça dans la Bible, mais à mon avis, je pense que... Oui, les premiers chrétiens, c'est indéniable, vivaient en communauté, c'est vrai, mais moi, je pense que... Ah oui, le lavage des pieds, en effet, c'est une ordonnance de Jésus, et si on ne le fait pas, eh bien, nous ne sommes pas en marche, c'est vrai, mais moi, je pense que... etc., 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 etc. Qui donne l'autorité à ces gens qui ont l'autorité de dire « moi, je pense que... » Qui ? Alors, ça peut être les démons, et ça peut être la chair. Si les démons, c'est grave, mais on peut les chasser. Si la chair, c'est plus vicieux. Parce que la chair, ça peut être à cause de la jalousie, ça peut être à cause de toutes sortes de trucs qui Et ça, c'est difficile à trouver. Dans le monde, si quelqu'un ne se soumet pas à l'ordre de son supérieur, on appelle cette personne un insubordonné. Jésus me dit, viens et suis-moi. Qu'est-ce que ça signifie suivre? Alors, on prend le dictionnaire. Suivre signifie que la voie que j'emprunte et le lieu où je vais sont tous les deux déterminés par une autre personne, pas par moi. Nous suivons le Seigneur. Alors, par conséquent, nous n'avons personnellement aucune autorité pour décider la voie qu'on a à suivre. Ah non, moi, je n'ai pas envie de... Ah ben non, moi, je ne me sens pas poussé à ceci, ah ben cela. Alors, d'où vient cette résistance? De démons ou de la chair? En tout cas, ça ne vient pas de la tête. Le corps, dans sa relation avec la tête, ne peut qu'obéir et suivre. Si nous voulons manifester la vie du corps de Christ, mes frères et sœurs, nous devons couvrir notre propre tête. Notre propre tête n'est plus le chef. Vous voyez pourquoi je vous disais l'autre jour, quand j'étais en Israël, j'étais étonné de voir que les Juifs se couvraient la tête. Et j'ai demandé à Victor, mais alors pourquoi est-ce que nous, on ne se couvre pas la tête? Il dit, mais parce que c'est une mauvaise compréhension du texte. Ce que Paul voulait dire, c'est que nous devons nous couvrir au contraire la tête, c'est-à-dire renoncer à notre propre autorité, mettre un signe sur notre tête que nous renonçons à notre propre autorité parce que c'est lui le chef. Mais c'est une mauvaise compréhension du texte. Je vous avais déjà enseigné. Ça veut dire que nous devons couvrir notre propre tête, renoncer à nos opinions personnelles, à notre volonté propre, à notre pensée égoïste, à notre désir de prouver que par nous-mêmes on peut y arriver. Nous ne pouvons que laisser Christ être le chef. Ouais, tout ça c'est bien beau, mais pratiquement comment on fait? Alors, il faut d'abord être certain que Jésus-Christ occupe cette position. Ça nous met dans la foi. Ça nous met dans le repos. Personne d'autre ne peut occuper cette position. Il n'y a que Jésus seul. Je ne peux pas être la tête, pas plus que quelqu'un ici au milieu de nous et personne d'autre dans le monde entier. Il n'y a que Jésus. On va relire Éphésiens, chapitre 4, versets 15, 16. Professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Qu'est-ce que c'est les liens de son assistance? L'assistance de la tête, c'est les nerfs, c'est les muscles, c'est les veines, c'est le sang, c'est tout ça. Mais qui travaille toujours en correspondance avec la tête. Formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. À partir de ce texte, on apprend que les membres du corps de Christ sont bien coordonnés et cohérents. Je vous parle du corps de Christ tel qu'il était à Jérusalem et dans les nations tout au début, quand c'était encore l'apôtre Paul qui était l'ange d'Éphèse, vous connaissez toutes ces choses, mais après ça s'est gâté. Mais maintenant, Dieu est en train de rétablir. Nous sommes sortis de l'Odyssée, nous sommes hors âge, et maintenant Dieu nous a donné certaines choses, il nous a mis à l'épreuve pour voir si nous étions fidèles dans ce qu'il nous donnait, et maintenant, ça va être l'apothéose. Mais, maintenant, nous apprenons dans ce texte que le corps de Christ, quand il n'est pas malade, il est bien coordonné, cohérent, parce que tous sont attachés au chef et manifestent la vie du corps, tous. La main, par exemple, elle est tout près du poignet. Est-ce que la main est plus liée au poignet qu'au pied? Non. Je ne peux pas embrasser quelqu'un en Afrique avec mes bras si mes pieds ne m'y mènent pas. Ce que Dieu veut, c'est qu'avant tout, vous ayez une bonne relation avec la tête, avec le Seigneur, vous-même. Si vous maintenez une telle relation avec le Seigneur, dans la prière, dans le jeûne aussi, eh bien, vous aurez une bonne relation avec les autres membres du corps. C'est normal. Et quand un membre souffre, tous les autres membres viennent pour l'aider, pour le secourir. Mais si ce membre s'isole, que pouvez-vous faire? Tous les problèmes entre frères et sœurs peuvent se résoudre facilement si nous nous soumettons tous à Jésus-Christ. Si vous n'avez aucun désaccord avec le Seigneur, vous n'aurez aucun problème majeur avec les frères et sœurs. Oui, de temps en temps, moi j'ai un petit problème en ce moment, j'ai une démangeaison là. Mais c'est pas grave, je me gratte, puis c'est bon. Il y a des petits problèmes, mais pas des problèmes qu'on meurt avec. Tout dépend donc de notre relation personnelle avec le chef, avec la tête, avec Jésus. Alors comprenons bien que nous ne sommes pas devenus disciples de Jésus parce que nous avons trouvé les chrétiens agréables. Alors là, c'est tout faux. Si vous êtes rentré dans la communauté ou si vous marchez dans l'église parce que vous avez trouvé en venant à la réunion que c'était sympa, alors là, ça va pas tenir longtemps. C'est pas possible parce qu'il y en a toujours un qui fait qu'on se gratte. Nous devenons disciples de Jésus parce que nous connaissons Jésus. Uniquement. Et la façon dont nous continuons à vivre comme disciples dépend de la façon de comment nous sommes devenus disciples. Nous sommes devenus disciples en établissant une relation avec le chef et nous continuons comme disciples en maintenant une bonne relation avec le chef. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de communion les uns avec les autres, mais seulement avec le chef. Nous communions ensemble parce que Christ habite en moi, mais il habite en toi aussi. J'ai pas un bout de Jésus et puis vous un autre bout de Jésus. Non. Jésus habite entièrement en chacun de nous. Ça, c'est l'esprit. Maintenant, la chair. Mais la chair a des talents qu'il faut sanctifier. C'est pourquoi on est différents. Sinon, alors, si c'était l'esprit de Jésus uniquement, on serait tous en train d'ouvrir la bouche et les mêmes paroles sortiraient en même temps, et ceci et cela, et c'est pas possible. Parce que nous avons une chair et elle est nécessaire. Nous sommes pleins chacun de talents différents les uns des autres. Et il faut apprécier les talents des uns des autres, et puis aussi de temps en temps les corriger, de temps en temps les magnifier, de temps en temps dire, là tu fais un peu trop de bruit avec ton talent, etc., etc., etc. Jésus habite entièrement en chacun, et en dehors de Jésus, nous n'avons rien qui puisse communier. Rien. Oui, comme les gens du monde, on peut communier en disant « Ah, j'ai vu le dernier Dexter, c'était génial. Ah oui, j'ai lu un article, machin, patin, couffin, voilà. » Mais ça, c'est des banalités, c'est des choses. Voilà. Mais ce n'est pas communier, ça. Ce n'est pas parce que telle ou telle personne est douce, est pleine d'égards pour vous, et qu'elle correspond bien à votre petit caractère, que vous communiez avec elle. Non. Si votre communion dépend des gens, c'est que vous n'êtes pas attaché au chef. Quand il y a un membre qui est difficile, eh bien justement, ça nous permet à nous de nous parfaire. Bon, c'est pas rigolo, hein, mais c'est comme ça. Si votre communion dépend des gens, c'est que vous n'êtes pas en communion avec la tête. Votre communion... elle ressemblera à la communion qu'Absalom avait avec le peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire ? Cette communion-là, elle a séparé le peuple de David. On va le lire parce que c'est très important. Tant pis si je suis un peu en retard ce matin. C'est pas grave. J'espère, pour vous. Écoutez ça. 2 Samuel 15, 1, 17. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi, donc vers David, pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira comme juge sur tout le pays ?» Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferais justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait, l'embrassait. Oh, il était rempli d'amour. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, ça a pris du temps, hein, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Il ne doutait de rien, le pauvre David. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, « Absalom règne à Hébron !» 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités à accompagner Absalom, et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo, Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Courage !» Non, il n'a pas dit courage. Il a dit « Levez-vous, fuyons !» Car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. « Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent, « Tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et s'arrêtait à la dernière maison. Voilà ce que c'est que une communion en dehors de la tête. Mais David n'est pas la tête. Non, il était le représentant de la tête. La communion entre chrétiens devrait être la même que celle qui les lie à Christ. Alors, jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à aller en tant que disciples de Jésus-Christ? Suivrez-vous le Seigneur jusqu'au bout? Alors, comment faire pratiquement? Comment vivre ça pratiquement? Bien, Jésus l'enseigne. Premièrement, nous devons crucifier notre chair. Si nous avons fait quelque chose de faux, ben, il faut le confesser, puis voilà. Et nous avons à apprendre à marcher selon l'Esprit, ça s'apprend. Dans Apocalypse 14:1-5, nous trouvons tout un groupe de personnes qui suivaient l'agneau partout où il va. Vous avez lu ça? Pouvons-nous dire que nous suivons l'agneau partout où il va? Oui! Je prêche ça dans une église, ils vont dire « Amen !» Mais voilà, ils s'illusionnent, c'est pas vrai. Il est venu sur terre pour agir et nous sommes entrés dans son œuvre. Il est allé dans le séjour des morts pour agir et nous devons nous soumettre et entrer dans son œuvre. Il nous a confié une mission sur terre et aussi dans le séjour des morts. Dans les deux bergeries, il y a deux bergeries. N'oublions pas que la croix, c'est le seul instrument qui peut nous mettre en communion. Parce que c'est la croix qui tient notre chair clouée. C'est la croix qui brise notre moi pour qu'on puisse suivre l'agneau partout où il va. Ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Et même de plus grande. S'il n'y a aucun obstacle entre vous et le Seigneur, il n'y aura plus aucun obstacle entre vous et l'Église. Chaque membre a une relation directe avec la tête et chaque membre a sa fonction, une fonction qu'il remplit selon l'esprit et non selon la chair. Je parle dans l'idéal, si l'Église est vraiment dans le rétablissement, si elle est dans le rétablissement, alors chaque membre remplit sa fonction selon l'esprit et non selon la chair. Et si un membre a une autorité, c'est que le chef lui a délégué cette autorité. Si un membre, alors on va voir, comment est-ce qu'on peut savoir si l'autorité vient de Dieu? Si un membre n'est pas un œil, le corps ne pourra pas le désigner comme étant un œil. Je dis pas, hein, j'ai pas bien compris ce que tu dis. Je dis, hein, qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est mon oreille que je désigne comme organe de l'ouïe. Si un membre n'est pas une main, le corps ne pourra pas le désigner comme une main. Le corps désigne un membre, c'est par désignation et pas par ordination. J'ai été ordonné, c'est du cirque évangélique. Je l'ai accepté parce que c'était Osborne, et Osborne m'a pas dit, ça va te donner un pouvoir. Ce qui donne le pouvoir, c'est l'imposition des mains, vous allez le voir tout à l'heure. Mais c'est pas l'ordination. L'ordination, il m'a dit, c'est juste pour, au cas où vous avez des problèmes en France avec les autorités, vous aurez un papier qui dit que vous êtes membre de la fondation et membre du clergé. Gloire à Dieu, j'ai encore pas eu besoin de faire valoir ce titre. Mais ce n'est pas l'ordination, ce n'est pas la carte de pasteur qui fait de vous ce que vous êtes. Le membre œil et le membre main n'ont l'autorité de voir et de tenir que parce qu'ils peuvent voir et tenir. C'est tout. Et si un membre main opère dans la soumission à la tête, alors ça va faire du bien à tout le corps de Christ. Je pense que vous avez saisi. C'est la vie qui établit, ce n'est pas l'ordination. Ne cherchez pas à avoir une carte, ne cherchez pas à avoir une carte de pasteur, ne cherchez pas les honneurs d'être un évêque ou d'être un je ne sais quoi ou un machin. Le corps reconnaît si un membre est un œil ou si le membre est une main et le corps se soumet parce qu'il peut désigner qui est qui. Il ne se soumet pas parce qu'on l'oblige. Mes frères et sœurs, lorsque la vie de Jésus-Christ qui est en nous est la désignation que le corps opère, quand on désigne, quand la vie et la désignation s'accordent, vous devez vous soumettre. Ce n'est pas une option, vous devez vous soumettre. Vous devez briser votre chair, vous devez renoncer à vos opinions, vous devez vous soumettre. Autrement, ben, la vie cessera et vous serez démis du corps. La décollation. Ce qui prouvera que vous êtes attaché ou non au corps, c'est cela. C'est pourquoi Jésus et les apôtres nous enseignent à nous soumettre les uns aux autres. Ah bon, alors on doit être soumis à la tête ou les uns aux autres? Mais quand on est soumis à la tête, on est soumis les uns aux autres. Et par désignation, on sait qui est responsable de ci, qui est responsable de ça, qui a l'autorité pour faire ci, qui a l'autorité pour faire ça. Et on ne conteste pas, on est d'accord. Et même si l'autorité commet des erreurs, ben on pardonne, même on pardonne à l'avance. Et ça, les uns pour les autres. C'est pourquoi Jésus et les apôtres nous enseignent à nous soumettre les uns aux autres. Si les membres ne se soumettent pas réciproquement, la vie qui est mentionnée dans Romains 8, c'est du pipeau, ça ne pourra jamais se manifester au milieu de nous. Vous lirez Romains 8 chez vous, parce que là, c'est un peu long. Ça ne pourra jamais se manifester. Ça, Romains 8, c'est l'idéal parfait qui doit être rétabli, mais ça n'existe pas encore. Si vous ne vous soumettez pas réciproquement, vous aurez l'impression personnelle de vous dégonfler, et puis vous aurez de la peine à continuer. Vous resterez par habitude, vous resterez parce que votre famille est là. Non, je ne peux pas partir, parce que si je pars, mon mari ou ma femme ou mes enfants... Ouais, ou que sais-je, je ne sais pas pour quelle raison vous resterez, mais ça sera lourd. Mais ceux qui auront discerné le corps de Christ considéreront la soumission comme une chose agréable. Je vois que Richie fait comme ça. Vous souvenez-vous de Philippe, pas Philippe Navez, hein, un autre. Philippe, qui n'était pas un apôtre. Philippe, ce n'était pas un apôtre. Il servait aux tables, c'est-à-dire c'était lui qui était dans la gestion, la comptabilité, un peu le sale boulot que Michou fait. Oh, merci Seigneur que je ne suis pas Michou. Mais si j'étais Michou, on serait déjà sous les ponts. Hein. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Bon, il est allé en Samarie, il va en Samarie, il prêche. Et il y a des guérisons, il y a des miracles, et il y a des délivrances extraordinaires. Philippe n'a pas dit, ok, je comprends que Pierre a reçu pour Jérusalem et moi pour la Samarie. Non. Il aurait pu se considérer comme apôtre en disant, bon, mais maintenant je suis plus simplement un petit diacre qui doit s'occuper des petits trucs banaux. On dit banaux ou banal? Je suis plus simplement un petit diacre, maintenant je suis apôtre. Et je veux ma carte. Eh ben non, il a fait appel aux apôtres pour qu'ils imposent les mains aux Samaritains afin que les Samaritains reçoivent la même vie qu'il y avait à Jérusalem, le Saint-Esprit. Alors pourquoi est-ce que la Bible nous parle de ce cas? On pourrait dire, oui, ben c'est gentil, c'est bien, c'est super, mais bon, il a bien agi, il était correct, il avait du savoir-vivre, il savait faire et tout, puis il a fait un petit peu de lèche en parlant. Non. Il était correct selon la doctrine, il connaissait la doctrine. Dans le Lévitique, il est dit que pendant l'offrande d'un sacrifice, celui qui faisait l'offrande, il imposait les mains sur la tête de l'animal sacrifié. Vous vous souvenez de ça? Que représentait l'imposition des mains à ce moment-là? On pouvait offrir un sacrifice que si on lui avait imposé les mains. Pourquoi? Parce que l'imposition des mains sur le bœuf, par exemple, unissait celui qui imposait les mains au bœuf. Le bœuf devenait celui qui l'offrait. Celui qui offrait devenait le bœuf. On sacrifiait le bœuf et tous les péchés qui avaient été faits par la personne qui l'offrait, le sacrificateur qui imposait les mains, parce qu'il avait la fonction pour le faire pour le peuple, eh bien, le pardon était accordé à celui qui imposait les mains et à celui qui avait payé le bœuf parce qu'il y avait eu imposition des mains. Il y avait eu, le bœuf devenait la personne. En offrant le bœuf, celui qui l'offrait s'offrait lui-même. Si le bœuf était accepté, celui qui l'offrait était accepté. S'il y avait encore une tâche, on ne prenait pas. Vous avez lu tout ça. Ainsi donc, la signification de base de l'imposition des mains, c'est l'union. Voilà pourquoi, dans 1 Timothée 5, 22, il est dit « N'impose pas les mains avec précipitation et ne te rends donc pas ainsi coupable du péché d'autrui. » Parce que quand vous imposez les mains à quelqu'un qui est dans le péché, eh bien vous vous faites complice, vous prenez sur vous la chose. Étant donné que l'imposition des mains, c'est le fait d'être uni à la personne à qui on a imposé les mains, celui qui impose les mains participe au péché de celui à qui il impose les mains s'il n'est pas prudent. Alors quand je vois dans les églises, tous ces gens qui s'imposent les mains, tirent l'arigot, moi j'interdis que quelqu'un m'impose les mains, dans les églises, partout en Afrique ils font ça. Hein. Ils sont en train de se filer toute leur culpabilité, tous leurs péchés les uns aux autres et les machins comme ça. Je pense que Dieu est miséricordieux et qu'il les protège et qu'il... parce qu'ils sont totalement dans l'ignorance de ces choses. Mais Dieu les rétablit maintenant. Maintenant, en tout cas, pour nous, on ne peut pas faire une chose comme ça parce qu'on a la connaissance. Je vous prêche par connaissance et par doctrine. Là. L'imposition des mains est synonyme d'union. Union est synonyme de communion. On imposait les mains et on oignait, par exemple, les rois et les prophètes, les sacrificateurs, tout ça, ça signifiait que la vie, l'esprit était sur eux en vue de communiquer au peuple, de communiquer avec le corps. Vous voyez donc que tout ça c'est sérieux et qu'il faut s'y soumettre de cœur. Ce sont des choses qu'on ne peut même pas, il n'y a pas à raisonner, il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à se dire, oui, mais pourquoi? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé? Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors, est-ce que ces choses sont toujours valables? Est-ce que Dieu, maintenant, n'est-il pas... Enfin, bon, on n'a pas à se poser des questions comme ça. C'est les Écritures, point barre. J'enseigne ces choses afin que ce qui doit être rétabli dans la communauté, qui est l'Église, le soit selon l'Esprit et non selon la chair. Aujourd'hui, dans la communauté, les ministres désignés sont des membres du corps de Christ qui représentent Christ. Par exemple, Pierre et Jean sont venus en Samarie pour imposer les mains aux nouveaux convertis. Ça signifiait qu'ils reconnaissaient et qu'ils désignaient ces gens-là comme membres du corps de Christ. Et dès que les apôtres les ont désignés par imposition des mains, le Saint-Esprit est venu. Pas avant. Si les sauvés de Samarie avaient reçu le Saint-Esprit avant l'arrivée des apôtres, Philippe aurait pu dire, d'une façon tout à fait juste, que les apôtres savaient œuvrer et étaient conduits pour œuvrer à Jérusalem et eux à Samarie. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Si Philippe avait fait ça, ça aurait détruit le principe du corps au bénéfice du principe de l'individu. Moi j'ai reçu ci, moi j'ai reçu ça. Ça aurait été deux œuvres séparées. Mais ça n'est pas arrivé afin que les sauvés de Samarie sachent qu'ils ne pourraient jouir de l'onction qu'en se soumettant au corps indivisible de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est l'Esprit, il est la vie du corps invisible et non l'Esprit d'un individu. Mais ces choses ont été perdues dans l'apostasie, et c'est pourquoi maintenant on voit un grand désordre. Et c'est pourquoi de nos jours on voit plusieurs églises de Jésus-Christ. On les voit cependant, il n'y en a qu'une qui soit la vraie. Tant qu'on marchera dans l'unité de cœur, par inspiration venant de Jésus, nous serons dans le rétablissement, mes frères et sœurs. On n'a pas à prétendre que nous sommes la seule église de Jésus-Christ, c'est complètement ridicule. Mais nous devons être sûrs que nous sommes vraiment dans le rétablissement, parce que c'est ça qui se fait aujourd'hui. C'est ça qui existe aujourd'hui. C'est ça l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Si on n'est pas dans le rétablissement, alors on n'est pas dans la vraie église de Jésus-Christ. Et si nous ne rentrons pas, alors nous serons une église de plus, bon, voilà, malade, avec la maladie de l'individualisme. Ah, Michel, un ministère en Afrique, c'est formidable et tout. Mais moi, je pense que... Alors que Dieu nous vienne en aide, qu'il m'aide, à bien vous garder et que chaque membre soit connecté à la tête. Amen. Amen. Tu peux couper ?